Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Brett Kavanaugh maintient sa candidature à la Cour suprême des États-Unis malgré le témoignage très fort de son accusatrice, Christine Blasey Ford, qui affirme avoir subi une tentative de viol. Dans un instant, nous retrouverons notre correspondant à Washington, Grégory Phillips. En Italie, le mouvement 5 étoiles et la Ligue ont finalement trouvé un compromis sur le budget 2019. La querelle budgétaire menaçait de faire éclater la coalition populiste au pouvoir à Rome. Les précisions de Mathilde Imberti dans ce journal. Emmanuel Macron aux Antilles pour un déplacement consacré notamment à l'environnement, les Antilles françaises où le chômage est deux fois plus important qu'en métropole. Nous en parlerons avec notre invité, l'économiste Olivier Sudry, spécialiste de l'outre-mer. Brett Kavanaugh a-t-il encore une chance d'être nommé à la Cour suprême des États-Unis? Le doute est permis ce soir après l'audition de son accusatrice, Christine Blasey Ford. Devant le Sénat, l'universitaire a affirmé la voix tremblante que c'était bien le candidat de Donald Trump qui avait tenté de la violer en 1982 lors d'une soirée lycéenne. C'est donc un Brett Kavanaugh fragilisé par la puissance de ce témoignage qui s'est présenté à son tour devant les sénateurs. On retrouve à Washington notre correspondant Grégory Phillips. Bonsoir.
Bonsoir.
Grégory, l'audition de Brett Kavanaugh n'est pas terminée. Le protégé de Donald Trump n'a pas l'intention de jeter l'éponge.
Non, et il vient de le dire, son audition a débuté il y a environ trois quarts d'heure avec un ton extrêmement ferme, presque énervé, très tendu et parfois au bord des larmes, souvent au bord des larmes. Le juge Kavanaugh dit ces accusations ont détruit non seulement mon nom, l'honneur de ma famille et ma réputation, mais je ne céderai pas, je ne renoncerai pas. Peut-être que au final, vous ne voterez pas pour moi, pour ma nomination à la Cour suprême, mais moi, je ne reculerai pas. Il redit encore une fois son innocence. Il affirme qu'il n'était pas à la soirée de cet été 1982 où Christine Blasey Ford l'accuse d'avoir tenté de la violer. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là ce soir-là. Je n'ai jamais agressé sexuellement quelqu'un, ni ce soir-là, ni jamais, ni au collège, ni au lycée, ni jamais dans ma vie. Donc Brett Kavanaugh se défend. Il répond maintenant aux questions des 21 sénateurs, 11 républicains, 10 démocrates qui vont le passer au gris de leurs questions sans doute jusque tard dans la soirée ici à Washington, comme il l'avait fait un peu plus tôt pour Christine Blasey Ford. Et vous l'avez dit, effectivement, le témoignage de cette femme de 52 ans a paru extrêmement crédible. Elle a très longuement décrit ce qui s'était passé selon elle ce soir de l'été 82 quand ils étaient encore des jeunes gens, et son témoignage a marqué les esprits ici. Toute l'Amérique quasiment regarde dans les cafés, dans les taxis, les gens sur leur téléphone portable regardent ça comme un feuilleton, car c'est une page importante de l'histoire de l'Amérique qui se dessine aujourd'hui, celle de la nomination d'un juge à la Cour suprême. Vous savez que c'est la plus haute juridiction du pays, et les juges, quand ils sont nommés, le sont à vie.
Grégory Phillips en direct de Washington, merci. Et hier, pour la première fois, Donald Trump avait fait savoir qu'il pourrait renoncer à la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême s'il était convaincu par l'audition de Christine Blasey Ford, audition qu'il a suivie à bord de son avion Air Force One. Pour l'instant, Donald Trump n'a fait aucun commentaire. La crise politique attendra en Italie. Les deux partenaires de la coalition populiste, le mouvement 5 étoiles et la Ligue, ont trouvé ce soir un accord sur le budget 2019. Nous sommes en direct de Rome avec Mathilde Imberti. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Mathilde, les 5 étoiles et la Ligue n'avaient pas les mêmes priorités budgétaires, mais ils ont finalement négocié un compromis qui sauve leur coalition.
Oui, un terrain d'entente a été trouvé ce soir au terme de 4 heures de réunion, des négociations jusqu'à la dernière minute, preuve que ce budget est plus que difficile à boucler. Ce soir, les deux parties sont pleinement satisfaites, la Ligue comme les 5 étoiles, parce qu'ils obtiennent un déficit à 2,4% du PIB en 2019. C'est beaucoup plus que ce que recommandait le ministre des Finances, qui lui est un technicien apolitique, choisi pour sa rigueur. Le bras de fer a tourné en faveur des deux alliés. Les élus 5 étoiles sont d'ailleurs réunis en ce moment devant le palais qui le siège du chef du gouvernement pour célébrer leur victoire. Le mouvement anti-système plébiscite la fin de la rigueur pour relancer la croissance et l'économie italienne. Leur mesure phare, c'est le revenu de citoyenneté, le revenu minimum alloué aux personnes en difficulté. Eh bien, ils obtiennent, les 5 étoiles, 10 milliards d'euros pour mettre en place ce revenu à l'attention de 6,5 millions d'Italiens. La Ligue, de son côté, se félicite de la révision de la réforme des retraites, l'avancement de l'âge de départ à la retraite, dont pourront bénéficier 400 000 personnes dès l'année 2019, vient de préciser la Ligue. Enfin, ce budget ne prévoit pas d'augmentation de la TVA. Donc, grande satisfaction ce soir des partis de gouvernement. Le Parlement va encore devoir voter la loi de finances, puis elle devra passer le test de Bruxelles. La Commission européenne donnera son avis d'ici au 30 novembre.
Mathilde Amerti en direct de Rome, merci. C'est en Martinique qu'Emmanuel Macron a entamé aujourd'hui une visite de 4 jours aux Antilles, un déplacement où il sera beaucoup question d'environnement. Au cœur des inquiétudes antillaises, il y a le chlordécone, ce pesticide interdit depuis 1977 aux États-Unis, mais utilisé jusqu'en 1993 aux Antilles françaises par les producteurs de bananes. Selon l'agence Santé publique France, plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique est contaminée par le chlordécone. L'État doit prendre sa part de responsabilité dans cette pollution. C'est ce que vient de déclarer Emmanuel Macron en visitant une exploitation agricole à Morne-Rouge.
Il est possible d'avancer davantage sur la question des maladies professionnelles pour les personnes particulièrement exposées à la molécule. J'ai demandé à ce titre que les tableaux des maladies professionnelles soient réactualisés en fonction des connaissances scientifiques, en priorisant l'impact de la molécule de chlordécone. Et en particulier, toutes celles et ceux qui ont travaillé pendant des années dans le secteur de la banane, on le sait, ont été beaucoup plus exposés à ce sujet. L'INSERM et l'ANSES rendront leurs travaux d'ici mars prochain. Les partenaires sociaux entameront leurs travaux sur la base de ces expertises pour les rendre le plus rapidement possible. La procédure d'ouverture donc du registre des maladies professionnelles sera engagée par le gouvernement dès le 2 octobre pour le régime général des maladies professionnelles et le 9 octobre pour le régime agricole.
Emmanuel Macron au micro de notre envoyé spécial en Martinique, Cyril Graziani. On va maintenant s'intéresser à la situation économique des Antilles françaises avec notre invité, l'économiste Olivier Sudry, spécialiste de l'Outre-mer. Bonsoir.
Bonsoir.
Olivier Sudry, les Antilles connaissent régulièrement des mouvements sociaux pour dénoncer une situation économique moins favorable qu'en métropole. Alors où en est-on aujourd'hui? Est-ce que le décalage existe toujours?
Hélas oui, et ces départements sont en réelle difficulté. Plusieurs indicateurs. Hein. Le premier, c'est le chômage qui reste désespérément très élevé. On est en moyenne entre 18 et 23% de la population active. Alors ce chiffre, c'est le double en fait, et des fois plus du double de celui de la métropole. Le chômage, c'est aussi un fléau pour les jeunes. Ça, c'est très clair. Hein. Les jeunes de 24 ans, il y en a un sur deux qui finalement n'a pas d'emploi. En métropole, on est plutôt autour de 20%. Ces difficultés, c'est aussi celle vraiment de la vie quotidienne, de la vie chère. Hein. L'appareil de production est peu développé, il y a peu de concurrence, et donc très souvent les marges sont élevées. Alors elles peuvent s'expliquer aussi, mais concrètement la vie est chère et les difficultés à boucler les fins de mois pour les familles sont non négligeables, ce qui entraîne après, on s'en doute, hein, une prévalence de la pauvreté qui est tout à fait exceptionnelle. Si je prends le cas de la Martinique, la pauvreté se touche à peu près 30% de la population, c'est exactement le double de la métropole où on est à 15%.
Olivier Sudry, est-ce qu'aux Antilles, le tourisme reste la principale ressource?
Alors, oui et non. C'est une ressource qui est en devenir parce que finalement, ces îles, elles ont du soleil, elles sont accueillantes, mais elles souffrent quand même d'un handicap de compétitivité. Ce que viennent chercher les touristes, c'est certes des conditions sympathiques, balnéaires, une bonne plage, etc. Mais aussi, ils veulent des bons prix. Et là, malheureusement, on retrouve le phénomène de la vie chère. Hein. Les prix sont relativement élevés au regard d'autres destinations qui sont tout aussi accueillantes, d'ailleurs, mais nettement moins chères. Je pense notamment à Cuba, dont le tourisme se développe. Donc c'est un vecteur de développement, c'est incontestable, mais il demeure encore à développer.
Et en dehors du tourisme, est-ce que la fonction publique fournit l'essentiel des emplois aux Antilles françaises ?
L'essentiel peut-être pas, mais elle y est effectivement importante pour des raisons historiques, et elle y est importante aussi, c'est un paradoxe, hein, en raison de l'étroitesse des territoires, puisque les administrations doivent exercer toutes leurs missions, et quand le territoire est petit, elles ont un poids relatif mécaniquement plus important hein, que dans le reste de l'économie. Et puis c'est vrai aussi que historiquement, les difficultés à trouver un emploi ont fait que les emplois publics ont été souvent appelés à la rescousse, et donc le poids relatif de l'emploi public dans l'emploi total est légèrement plus élevé en Martinique, en Guadeloupe qu'en métropole.
Et quel est le rôle de l'agriculture aux Antilles françaises ?
Alors, il est, mais finalement, quelque part, comme en métropole, son poids relatif est relativement faible. Hein. On l'estime, alors là, il y a toujours les problèmes d'autoconsommation de produits agricoles, hein, qu'il faudrait corriger tout ça, mais c'est aux alentours des 2% seulement de la contribution au produit intérieur brut. Alors, quand on dit ça, on n'a pas tout dit. Hein. Évidemment, l'agriculture, c'est la ruralité, c'est donc des populations qui restent dans les campagnes, et au-delà de la production agricole, elles ont un rôle essentiel à jouer aussi sur l'environnement. C'est vrai qu'historiquement, si je reprends le cas simplement de la Martinique, d'il y a 50 ou 60 ans, était une Martinique agricole. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. La Martinique, c'est une, en fait essentiellement des services hein, qui contribuent à la richesse. L'agriculture, c'est 2% du produit intérieur brut, pas plus.
Et s'agissant de l'industrie,
alors, c'est très difficile parce que là aussi, le marché est étroit. Imaginez construire une industrie, par exemple, je sais pas, de fabrication d'automobiles, vous voyez, sur un marché de 300 000 habitants, c'est tout juste pas possible. Et donc, en fait, on a beaucoup d'industries qui ne sont techniquement pas possibles d'implanter localement. Le gros de l'industrie, en fait, il est d'abord dans l'industrie agroalimentaire, puis ensuite dans l'industrie aussi de fabrication des matériaux de construction. C'est les deux grands pôles industriels aux Antilles, pour ne citer que ces deux principaux, hein, mais son poids relatif est aussi limité aux alentours des 10% du PIB.
Olivier Sudry, vous nous dressez finalement un tableau assez sombre de l'économie antillaise, malgré les différents plans de rattrapage avec la métropole. Alors, comment expliquer cette situation finalement ?
Ce dont souffre l'outre-mer, en fait, c'est un déficit de compétitivité. Et quand on regarde, sans trop rentrer dans les détails, quand on regarde, en fait, le problème principal, c'est un problème de productivité, et notamment de productivité du travail. L'enjeu, c'est d'améliorer la productivité du travail, et du capital aussi, mais surtout du travail, de façon à avoir des meilleurs prix. Et à partir de ce moment-là, la production domestique, la production donc antillaise, trouvera plus de demandes, trouvera plus de clients. On évoquait tout à l'heure le tourisme. Si les hôtels, en fait, offrent des nuitées à meilleur marché qu'actuellement, il y aura plus de touristes. Idem pour la croisière, idem pour l'industrie locale. On ira peut-être moins acheter des produits importés que si les prix des produits antillais sont plus bas. Donc, d'une manière générale, il y a un effort immense de productivité qui doit se traduire par une baisse des prix. Tout ceci afin d'améliorer la compétitivité. Et c'est comme ça qu'on aura de l'emploi, un emploi durable, un emploi qui ne sera pas, systématiquement soutenu par les pouvoirs publics, mais plutôt par les entreprises.
Olivier Sudry, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Édouard Philippe, lui, est resté en métropole pour un exercice difficile, affronter la colère des élus locaux. Lors du congrès des régions à Marseille, les associations qui regroupent les collectivités locales ont lancé un appel solennel au gouvernement. Il faut en finir avec les coupes budgétaires brutales. Édouard Philippe a tenté de s'expliquer ce matin à Marseille. Le Premier ministre n'a pas vraiment convaincu Stéphane Robert.
Édouard Philippe est venu à Marseille devant les collectivités territoriales dans un état d'esprit qui se voulait amical, mais aussi avec une volonté de franchise qu'il a pleinement assumée.
Le lien indispensable qui doit se tisser entre nous a été distendu. Je ne crois pas qu'il ait été cassé, je ne crois pas qu'il ait disparu. Et donc, moi aussi, je lance mon appel de Marseille, monsieur le Président. C'est l'appel à une décentralisation qui accepte la franchise et l'amitié. L'amitié qui crée un lien, la franchise qui autorise à se dire qu'on n'est pas d'accord.
Le Premier ministre a appelé les départements, les communes, les régions à renouer le dialogue, mais sans rien lâcher. Il est resté droit dans ses bottes, Édouard Philippe, ce qui n'a pas manqué de susciter certaines frustrations. Hervé Morin, président de l'Association des régions de France.
Ce que nous voyons de positif, c'est le fait que le Premier ministre soit venu au-delà. Nous n'avons eu, bien entendu, pas le quart du début du commencement d'une réponse. Aujourd'hui, il reste encore beaucoup de parts d'ombre.
Une déception partagée de façon unanime. Carole Delga est la présidente socialiste de la région Occitanie.
Malheureusement, ce matin, monsieur le Premier ministre n'a pas répondu à notre volonté d'unité. Parce que bien sûr, l'unité, c'est avec l'État. C'est de pouvoir être dans un collectif. Et dans un collectif qui réponde aux problématiques de nos concitoyens, aux inquiétudes des Françaises et des Français.
Pour le moment, les élus locaux n'ont aucunement l'intention de retourner dialoguer avec le gouvernement au sein de la Conférence nationale des territoires. L'exécutif ne mesure pas l'ampleur de la fronde, explique-t-il. Des discussions informelles doivent avoir lieu courant octobre.
Stéphane Robert, merci. Et de retour à Paris ce soir, Édouard Philippe participe en ce moment à l'émission politique sur France 2 avec cette déclaration sur le chômage. Dans certains cas, la dégressivité des allocations chômage peut être envisagée. Nous avons mis le sujet sur la table, a déclaré le Premier ministre. Pour ceux qui ont des salaires très élevés, une forme de dégressivité de l'assurance chômage peut avoir du sens, a ajouté Édouard Philippe. Un mot de la météo, demain, un peu moins ensoleillé qu'aujourd'hui. Le ciel sera variable au nord de la Seine. Partout ailleurs, le beau temps s'imposera. Température minimale de 7 à 19 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales seront supérieures aux normales saisonnières de 17 à 32 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.